Anne Riner, 1924, L'individualisme dans l'Antiquité, histoire et critique. Note préliminaire. À deux reprises, j'ai parlé complètement devant un public populaire de cette histoire de l'individualisme antique. La seconde fois, mes conférences devaient être sténographiées. Les circonstances n'ayant pas permis de réaliser ce projet, j'ai écrit au premier loisir les pages qui suivent. Au silence solitaire du cabinet, je n'ai pas essayé de retrouver le ton oratoire ou l'accent de la causerie. Peut-être cependant de vieilles ou récentes réminiscences m'ont emporté quelquefois sur une pente que j'avais déjà tracée. Et l'unité d'accent paraîtra ici insuffisante. Je serais heureux si on a l'impression que le parler et l'écrit se fondent, ou à peu près, en sourire et en familiarité, plutôt qu'en emphase et en déclamation. Une rapide histoire de l'individualisme antique forme un chapitre d'un assez gros livre futur, La sagesse qui rit. Mais un chapitre n'est pas écrit pour lui-même, et il me semble que mes deux essais ne feront point toujours double emploi. Dans La sagesse qui rit, l'histoire est étudiée uniquement pour en tirer des enseignements pratiques et actuels. Dans la présente brochure, je suis un peu plus désintéressé, un peu plus curieux, un peu plus historien. J'ai aussi pu me permettre aujourd'hui des détails, des explications et des développements qui, dans le gros livre tourné vers autre chose, auraient fait longueur. Introduction. Rien n'est difficile comme la découverte de la vérité historique. Je ne connais que la guerre du Péloponnèse qui puisse, grâce à la conscience peut-être unique de Thucydide, être compté avec quelque assurance. Les documents contemporains sont rarement désintéressés. Même lorsque l'auteur n'est pas aveugle et qu'il ne ment pas consciemment, même lorsqu'il dit ce qu'il croit est de la réalité déformée par ses préjugés, par sa religion, par sa patrie, par ses amitiés et ses antipathies. L'histoire d'une doctrine est plus facile que les autres histoires lorsque nous possédons l'œuvre du docteur. Ici, nous devenons, presque exempts de passion, à peu près contemporains du fait. À peu près seulement. Il faut que nous tenions compte de la vie changeante des mots. Il nous faut deviner les allusions qui jadis éclairaient et aidaient le lecteur, qui aujourd'hui nous gênent et nous troublent. N'importe. J'oublie la grande colère de Malebranche contre Spinoza, les âneries de cent universitaires sur Spinoza. Je lis l'éthique et le traité théologico-politique et je connais la pensée de Spinoza dans la mesure où je suis capable de pénétrer une pensée étrangère. Pour les individualistes antiques, je n'ai pas toujours la ressource essentielle que présente l'étude de Spinoza ou de Kant. Plusieurs et des plus grands n'ont rien écrit. Des autres, souvent les textes sont perdus. Les rares fragments qui nous sont parvenus ont été choisis, la plupart du temps par des ennemis dans un but polémique. Dans tous les domaines, les ouvrages anciens ont disparu en proportions effroyables. Les œuvres individualistes ont été particulièrement maltraitées. Les a-t-on détruites à dessein? Plus probablement et plus simplement, elles intéressaient moins les gens qui disposent de l'argent et achètent les livres. Elles ont été reproduites en un grand nombre et leurs chances ont été appauvries de nous parvenir. Nous connaissons la pensée de la plupart des individualistes antiques par des expositions étrangères. On sait de façon générale combien la meilleure volonté de fidélité laisse infidèles de telles expositions, lorsque, avec tout le respect dont nous sommes capables, nous avons essayé de reproduire la pensée du voisin, le voisin presque toujours nous accuse de l'avoir trahi. Les pensées individualistes, transmises par des écrivains sociaux, ont dû subir des déformations singulières. L'écrivain social n'a pas toujours compris. Parfois, il s'est appliqué à présenter moins un portrait qu'une caricature. Il est rare qu'un conformiste puisse relater sans sourire une pensée non conformiste. Quelques-uns pourtant de nos individualistes ont su se faire aimer. Parfois aussi, une mort pathétique a projeté sur leurs paroles lumière et gloire. Si les 2000 disciples qui les aimaient continuaient à aimer la cité, quelles étranges modifications a apporté dans leurs souvenirs l'effort de concilier deux amours contradictoires. Il leur est arrivé de socialiser ceux-là même qui étaient le plus antisocial. Mais les hommes que je vais étudier sont-ils bien des individualistes? Vers le commencement du siècle, j'exposais la pensée du plus célèbre d'entre eux dans les milieux les plus divers. Presque toujours, un Nietzschéen me déclarait que je n'avais pas parlé d'individualisme. La mode donne raison à mon contradicteur. Lorsque Brunetière ou Faguet s'imaginaient avoir réfuté Nietzsche, ils se vantaient d'avoir démoli l'individualisme. Pour les adversaires de Nietzsche comme pour ses amis, pas d'individualisme en dehors du nietzschéisme. Je ne me suis jamais inquiété de la mode. Je continuais, malgré toutes les contradictions, d'appeler Socrate, Épicure, Épictète et quelques autres des individualistes. Et je me proclamais individualiste comme eux. Quant à l'objection nietzschéenne, selon mon humeur du moment, suivant aussi la valeur et la courtoisie de celui qui me l'opposait, j'y répondais de façon diverse. Certaines heures nonchalantes, je me contentais de rappeler que les définitions sont libres. Presque toujours, j'ajoutais qu'il est plus individualiste de ne pas définir. Les cyniques et Nietzsche évitent également la définition et savent également pourquoi. L'individu est reconnu indéfinissable, même par les plus dogmatiques et les plus définisseurs des logiciens. Mais pour nous, individualistes, il n'y a d'existence que dans les individus, dans les choses particulières, dans les faits d'une foi. Et c'est tout le réel que nous devons déclarer indéfinissable. Les termes généraux, le mot individualiste comme les autres, ne désignent rien d'extérieur à notre esprit. Non seulement ma conception a le droit d'être différente de la vôtre, mais si on ne se contente pas, au moins d'un côté, de prononcer des mots vides, s'il y a vraiment ici et là conception, elles ne peuvent pas éviter d'être différentes. Par le même mot, nous exprimerons, comme le remarque Antisthène, deux séries d'expériences. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous, et nous n'avons pas rencontré dans le même ordre les mêmes objets. L'individualiste n'est-il pas l'homme qui comprend la nécessité des différences et qui joyeusement y consent? Si j'allais être plus individualiste que vous, Précisément parce que j'admets chez vous, en la repoussant pour moi, votre façon de comprendre l'individualisme, tandis que vous voulez, semblable à nos ennemis communs, m'imposer comme unique un certain type d'individualisme. Une orthodoxie individualiste, laissez-moi rire, cher orthodoxe. Quelquefois, si on avait été trop agressif, je faisais semblant de devenir agressif moi-même. J'ajoutais que la liberté de définir, ou plutôt de dénommer, a des limites raisonnables. Il serait absurde de trop éloigner les mots de leur sens naturel. Et individualiste à quiconque ne respectait pas tous les individus. Mais, lorsque je combattais selon cette méthode et opposais intolérance à intolérance, ce n'était pas sans me moquer un peu de l'adversaire et de moi-même. Presque toujours, je préfère donner aux mots un sens large et relatif. Non seulement chez tout penseur, mais chez le plus ignorant des hommes, je trouve emmêlés des éléments individualistes et des éléments conformistes. J'appelle individualiste celui chez qui les premiers dominent, celui qui le plus souvent s'éloigne du troupeau. Peu importe quand il s'agit seulement de ce nom général et vague qu'on s'écarte vers la droite ou la gauche, je salue comme individualiste quiconque, dans une époque religieuse, se montre impie. Quiconque, dans un milieu orthodoxe, se manifeste hérétique. Quiconque, dans une période de civisme, sait rire de la cité ou maudire les crimes de la patrie. En dehors des mathématiques, l'individualiste n'essaie que de négligentes définitions de mots sur lesquelles il croirait dangereux d'appuyer l'écrasement d'une démonstration. Il ne parque guère non plus les choses dans des classifications rigides et définitives. Ces classifications, toujours provisoires, il les tente pour mieux éclairer un instant tel ou tel aspect de tel ou tel concret. Mes classifications des diverses formes de l'individualisme pourront donc varier sans que j'en jouisse. J'ai hâte cependant de distinguer mes tendances des tendances nietzschéennes. Depuis une vingtaine d'années, j'ai accoutumé de nommer la doctrine de Nietzsche d'après un des titres les plus célèbres du grand lyrique, l'individualisme de la volonté et puissance. Et je lui oppose, au nom de Socrate, d'Épictète, en mon humble nom aussi, l'individualisme de la volonté d'harmonie. Le fichier 1 traitera les sophistes, le fichier 2 de Aristippe et les Cyrénaïques, le fichier 3 d'Épicure, le fichier 4 des cyniques, le fichier 5 des stoïciens.